Voilà, nous aussi, on est très contents de revenir encore vous rendre visite. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous, bonjour, chers frères et sœurs. Et on a plus chaud ensemble, hein, pas seulement à parler des chauffages, mais ça fait du bien en tout cas. Voilà, j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte où vous avez été repris, discipliné? Je m'adresse aussi aux enfants, hein, mais pas seulement, aux adultes aussi. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez été repris, discipliné, soit par vos parents, soit par votre professeur à l'école, soit votre travail? Et comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous vous êtes dit « c'est pas juste » et puis vous avez un mot gré? Ou est-ce que plutôt vous vous êtes dit « oui, finalement, c'est vrai » et vous avez été reconnaissant, d'avoir été repris, discipliné? Alors, je continue la série des églises sur les églises, les lettres aux églises de l'Apocalypse qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible, et on en arrive donc à la troisième église. Vous vous rappelez, la première église, c'était une église qui manquait d'amour, une lettre à une église qui manquait d'amour, l'église d'Éphèse. La deuxième église, la deuxième lettre s'adressait à une église qui était persécutée, qui n'avait pas de reproche, mais qui était persécutée à cause de sa foi, l'église de Smyrne. Et là, nous en arrivons à une église qui manque de discipline. Une église qui manque de discipline, qui est laxiste, l'église de Pergame. Lorsque Satan n'a pas réussi, par la violence, à faire tomber l'église, eh bien, comment est-ce qu'il s'y prend? Par la séduction, par les compromis, par la débauche, pour faire tomber l'église. On va lire donc dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Et avant ça, je vais prier. Père Céleste, nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole, pour ces lettres aux églises qui nous concernent tous, Seigneur, à toute époque, nous, ton église, ton peuple. Seigneur, nous te demandons de prendre pour nous ce qui est pour nous dans chacune de ces lettres, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous parler aussi individuellement, Seigneur, à chacun dans nos vies, Seigneur, et que nous recevions ta parole pour être toujours plus près de toi et conforme à toi, Jésus, à ta personne, Seigneur, à ta ressemblance. Amen. Donc Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, un texte donc qui parle de discipline. Qui parle de discipline dans le contexte de l'Église. Et la vérité qui ressort de ce texte, c'est que la discipline est nécessaire à l'intérieur de l'Église. La discipline est nécessaire à l'intérieur de l'Église. Alors, voyons dans quel cas elle est nécessaire et pourquoi elle est nécessaire. Ça sera mon premier point. Et dans mon deuxième point, on verra comment exercer la discipline dans l'Église. Et c'est pas facile. Qu'on soit responsable, qu'on soit membre de l'Église. Et n'empêche qu'effectivement, eh bien, il en est question dans ce texte. Comment exercer la discipline dans l'Église? Alors, pour situer le contexte, hein, comme d'habitude, pour chacune de ces villes, où se situent ces églises, la ville de Pergame. Pergame, c'était une ville d'Asie mineure et c'était un haut lieu de l'idolâtrie. Derrière la ville de Pergame, il y avait une colline de près de 300 mètres de haut Et cette colline, elle était couverte de temples païens. L'idolâtrie, il y avait la grande part. Et dans la ville se trouvait le temple d'une idole qui s'appelait Esculape. Esculape, c'était une divinité païenne, c'était la divinité de la médecine. Et le symbole d'Esculape, vous le connaissez tous. Alors peut-être le mot vous dit rien, mais si je vous dis quand vous passez devant une pharmacie, le serpent que vous voyez dans une ancienne de la pharmacie, le symbole d'Esculape, c'est le serpent qui est resté celui de toutes les branches médicales. Voilà, quand vous voyez un serpent dans une ancienne de pharmacie, ça vient de là. Alors effectivement, il y avait les malades étaient couchés à l'époque la nuit dans le temple où on élevait des serpents inoffensifs. Et ces serpents, eh bien, ils étaient lâchés et ils se répandaient dans le temple où étaient les malades. Et ce temple, c'était en même temps un centre médical réputé pour ses cures thermales. Alors, comment est-ce qu'on soignait les malades ? On soignait les malades par des bains d'eau, de soleil, par la musique, par la suggestion, on pourrait dire la méditation aujourd'hui, la prière, l'interprétation des rêves. Ça vous dit quelque chose peut-être encore aujourd'hui, quand on parle de sophrologie, quand on parle de... Eh bien, il y a effectivement... ça fait penser aussi à Lourdes, ça fait penser à plein de choses. Ça fait penser à la fois aux religions orientales, ça fait penser aussi à Lourdes, la ville de Lourdes, où beaucoup, effectivement, eh bien, vont pour être guéris. Ça peut partir... Personne n'aime être malade. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être contre la médecine, contre la pharmacie, contre les médicaments? Non, bien sûr que non. La médecine est bonne et elle a fait de grands progrès. Elle a fait de grands progrès et elle peut soulager bien des maux à partir de ce que Dieu a créé, à partir des plantes médicinales que Dieu a créées. Mais il y a un revers à cette médaille-là. Le revers de cette médaille, c'est que la médecine peut devenir une idole, comme c'était le cas à l'époque dans la ville de Pergame. La médecine pouvait devenir une idole. Et aujourd'hui... est-ce que c'est nouveau ? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Et en France, plus de la moitié des Français, plus que la moitié, disent ne pas croire en Dieu. Par contre, en quoi est-ce qu'ils croient beaucoup ? Dans la médecine. Est-ce que c'est une façon d'en faire une idole ? Oui, je le crois. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui espère tout de la médecine, ça devient une idole. Ils mettent toute leur confiance dans la science, dans la médecine, oubliant quoi ? Oubliant que cette médecine n'est pas infaillible. Elle n'est pas infaillible. Elle peut faire du bien, elle peut aussi faire du mal si elle est mal utilisée. Et puis bien sûr, et on l'a vu ces derniers temps avec la pandémie, la médicale peut prendre une grande place dans le gouvernement d'un pays. Bien sûr que nos autorités prennent conseil auprès de la médecine. Mais parfois, quelle est la place ? Où est la vraie autorité finalement ? Et effectivement, la médecine peut prendre parfois une grande place dans le gouvernement d'un pays. On parle d'une autorité médicale, hein, évidemment, on veut entendre ce qu'il y a de bon, on a besoin de leurs avis, il y a des experts, des scientifiques, tout le monde n'est pas scientifique. En tout cas, la médecine à l'époque, c'était donc une idole. Et donc, beaucoup de cultes païens à Pergame, qui étaient plus ou moins fondus entre eux, et ces cultes cohabitaient très bien avec le culte de l'empereur. L'empereur se faisait adorer, comme un dieu, il voulait se faire adorer. Alors, dans cette lettre, Jésus commence par dire ce qui va bien, parce qu'il y a des bonnes choses, des très bonnes choses dans cette église de Pergame. C'est une église qui est... Et le Seigneur le dit lui-même, quel encouragement pour l'église, ça vient de la bouche du Seigneur. Ce qui va bien, c'est que c'est une église qui est restée fidèle au Seigneur, qui retient son nom, qui n'a pas renié la foi, malgré un contexte difficile. Et quel est ce contexte, et pas des moindres? Eh bien, cette église demeure, le verbe demeurer est présent deux fois, hein. Cette église demeure là où demeure Satan, et non seulement là où demeure Satan, mais là où demeure le trône de Satan, là où Satan domine. Et malgré cela, l'église est restée fidèle, et le Seigneur prend bien soin de le faire remarquer. Cette église, donc, elle demeure là où est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure, selon le verset 13. Alors Satan, évidemment... Il est l'ennemi de Dieu, on ne le voit pas, il est bien réel. Et il utilise des hommes, et parmi les hommes qu'il a utilisés, il y a eu l'empereur qui voulait se faire adorer. Alors, parce qu'il voulait se faire adorer comme Dieu, justement. Et effectivement, c'est à Pergame. Pergame fut la première ville d'Asie à instituer le culte de l'empereur, avec même son temple. Première ville ou institution du culte de l'empereur. Et, par voie de conséquence, il y a des enfants de Dieu qui ont voulu rester fidèles et qui ont été martyrisés. Et parmi eux, celui qui est cité ici, Antipas. Antipas, il a été le premier martyr chrétien d'Asie mineure à souffrir pour sa foi, pour avoir refusé d'adorer l'empereur. Il fut un témoin fidèle. Témoin fidèle, ce mot s'applique à Jésus, le témoin fidèle. Donc si on reprend le contexte de cette église, dans cette ville, double difficulté de demeurer là où Satan a son trône et domine. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Satan, le trône de Satan? Remettons bien les choses à leur place. Soyons clairs, Satan a été vaincu par Jésus-Christ à la croix, quand il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Jésus a été déclaré vainqueur et nous qui croyons en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Satan a été vaincu par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Mais Dieu le laisse encore libre d'agir, pour un temps seulement et dans certaines limites. Et on le voit bien dans ce qui se passe dans le monde, on voit bien son action, n'est-ce pas? Dans tout ce qui se passe. Quand on allume la radio, on voit bien que ça ne va pas trop, ça ne va pas dans le monde, n'est-ce pas? Et ça ne date pas d'hier. Dieu le laisse encore libre de choisir, encore pour un temps, une durée limitée, et dans les limites qu'il a fixées. Malgré ce contexte difficile, l'église de Pergame est restée fidèle à son Seigneur. Elle a gardé la foi en son nom. Une foi qui est à la fois personnelle et communautaire. Et le Seigneur prend bien soin de le souligner lui-même, de sa propre bouche, pour encourager l'église à l'époque, mais aussi pour nous encourager aujourd'hui. Parce que ça veut dire qu'une église qui reste fidèle dans un milieu aussi hostile, aussi difficile, eh bien c'est possible. Et l'église de Pergame en a été un exemple. C'est possible de rester fidèle au Seigneur. De garder sa foi dans là où Satan domine, dans un monde de plus en plus athée, un monde qui ne croit plus en Dieu, ou beaucoup moins. Et en France, plus de la moitié n'y croit plus. Donc ça, c'est ce qui va bien. Le Seigneur souligne ce qui va bien. Il le dit. Et quel encouragement pour eux, ça a dû être, et pour nous aujourd'hui. Et encore plus, bien sûr, pour l'Église qui est persécutée. Mais il y a un mais, il y a un problème qui subsistait, que le Seigneur a soulevé et pour lequel il lui dit de se repentir. Alors, quel était ce problème? Où se situe le problème? En fait, ce problème, il était triple. Il était triple. Premièrement, l'Église comptait des membres idolâtres et débauchés, sexuellement. Puisque la débauche, ça concerne effectivement l'inconduite sexuelle. Hein. Des membres idolâtres et débauchés qui ne s'étaient pas repentis. Alors, entendons-nous bien, l'Église est formée des pécheurs que nous sommes tous. Nous sommes tous des pécheurs et l'Église est ouverte à tous. Et justement, ce sont les pécheurs que Jésus appelle à venir à lui, pécheurs que nous sommes tous. Et la différence, c'est que les chrétiens ne sont pas parfaits, mais nous avons accepté d'être pardonnés en Christ. Parce qu'il nous accueille, il t'accueille. Christ accueille le pécheur tel qu'il est. Dans quel but? Pour qu'il reste comme il est? Non, pour le sauver, pour qu'il se repente et qu'il change. Pas pour qu'il devienne pire. Or le problème dans l'Église, c'est que ces gens ne s'étaient pas repentis. Ça, c'était le premier problème. C'était donc problème d'idolâtrie. Une idole, c'est lorsque Dieu on met pas Dieu à la première place. Quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu. Ça, c'est une idole. Des gens qui ne s'étaient pas repentis, qui étaient donc dans l'Église. Deuxième problème, et pas des moindres, c'est que ces mêmes personnes, c'étaient des faux docteurs. Des faux docteurs, ça veut dire qui enseignaient les autres membres de l'Église à faire pareil, pour les entraîner dans la débauche et dans l'idolâtrie. Ça, c'est un deuxième problème, et pas des moindres. Et le troisième problème, quel était-il? C'est que l'Église laissait faire. L'Église avait sous les yeux des faits, et l'Église laissait faire. Et ne reprenait pas ces faux docteurs. Donc le problème central de l'église de Pergame, c'était un problème de discipline. C'était un problème de discipline. Alors, l'histoire révèle que le problème s'est accentué au fil des siècles. Plus tard, alors Pergame, ça veut dire entièrement marié. Vous savez, les noms dans la Bible, ils ont une signification, c'est pas pour rien. Pergame, le nom, ça veut dire entièrement marié. Eh bien, par la suite, l'église de Pergame, elle a été entièrement mariée avec l'État. Avec l'État. Lorsque sous l'empereur Constantin, en l'an 312, le christianisme est devenu une religion d'État. Rien de nouveau dans l'histoire de notre pays. La religion et l'État ont voulu faire ménage. Et pas toujours bon ménage. Et parfois, lorsque ça marchait bien, eh bien, c'était au détriment des chrétiens. L'Église est devenue entièrement mariée avec l'État. Ça a donné naissance. C'était pas sans conséquence. Ça a donné naissance à des chrétiens de nom. Juste le nom chrétien, mais pas de cœur. Des chrétiens qui avaient adopté des pratiques païennes et qui étaient tolérés en son sein. Avec l'introduction de doctrines étrangères, avec des mauvaises alliances, des mauvaises associations. Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a ouvert la porte à des compromis avec le péché, avec le mal. Ça a ouvert la porte à du laxisme. Ça a ouvert la porte, le monde est entré dans l'Église. Alors que c'est l'Église qui doit briller dans le monde. Alors premièrement, voyons dans quel cas la discipline doit-elle être exercée dans l'Église et pourquoi faut-il l'exercer? Le reproche que le Seigneur fait à l'Église de Pergame, c'était qu'ils avaient des gens attachés à quoi? À deux doctrines. La doctrine de Balaam, verset 14, et la doctrine des Nicolaïtes, verset 15. Une doctrine, par définition, ça s'enseigne. C'est une idéologie, ça s'enseigne. Et effectivement, ces doctrines étaient enseignées dans l'Église. C'est pourquoi les faits dont il est question ici étaient d'autant plus graves. On est tous pécheurs dans l'Église, mais là, c'était grave parce que ces personnes enseignaient les autres à faire pareil. Ces doctrines étaient, ils faisaient enseigner ces fausses doctrines dans l'Église. Alors, que disent ces doctrines, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes? Premièrement, la doctrine de Balaam. Eh bien, elles ont toutes les deux, enfin, avant d'aborder Balaam, elles ont toutes les deux un point commun. C'est qu'elles visaient à pousser les membres de l'Église à l'idolâtrie, c'est-à-dire à remplacer Dieu par quelqu'un ou quelque chose d'autre à la première place. Aujourd'hui, voilà, on peut prendre des tas d'exemples. Hein. La médecine peut devenir une idole, la télévision peut devenir une idole, la drogue, bien sûr le sexe aussi. En tout cas, ces deux doctrines visaient à pousser les membres de l'Église à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle et l'idolâtrie, c'était deux objets de scandale pour tenter les frères et sœurs de l'Église. Dans quel but? Pour les faire tomber. Et le verset 14 appelle cela être une pierre d'achoppement. Vous savez, une pierre d'achoppement, c'est quand quelqu'un marche, il a une pierre, il heurte et il tombe. Eh bien, ces deux doctrines visaient à faire tomber les gens de l'Église. Alors, premièrement, la doctrine de Balaam, vous trouvez son histoire dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 22. Hein, vous pouvez regarder chez vous, si vous voulez. Et Balaam, le nom Balaam veut dire... La signification du nom Balaam veut dire qu'il détruit l'Église. Et effectivement, il portait bien son nom. Balaam, il était devin. Et Balak était roi de Moab. Et il a envoyé à Balaam des anciens pour le payer, dans quel but? Pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Donc le roi de Moab a envoyé des anciens vers Balaam pour qu'il maudisse Israël en le payant. En fait, l'Éternel, il n'a pas laissé faire, dans le sens qu'il a obligé en réalité Balaam à bénir le peuple, en lui interdisant de le maudire. Dieu prend bien soin de son peuple. Mais Balaam désobéit à Dieu. Et il enseigna à Balak à corrompre les enfants d'Israël par l'idolâtrie et la débauche. Je vais lire le verset en nombre 24. Oui, je crois que c'est 24, c'est ça. Quelques versets pour résumer l'histoire. Hein. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà donc une mauvaise alliance, on peut dire. Et ces mariages avec les filles de Moab furent sévèrement punis puisque Dieu a envoyé une plaie où moururent 24 000 Israélites. C'est en Nombre 25, verset 9. Voilà, vous pourrez, à partir du chapitre 22, vous avez toute l'histoire du livre des Nombres. Alors Balaam, eh bien, il est le type même du faux prophète. Balaam, il est le type même du faux prophète qui prêche dans le but de recevoir de l'argent. Il était intéressé, Balaam, hein, par l'argent qu'on lui offrait. Dans le but de recevoir de l'argent et des honneurs. Et avec une telle motivation, eh bien, les auditeurs peuvent être conduits à un relâchement en entendant ses discours. Voilà donc quel était le problème pour Balaam, pour la doctrine de Balaam. Ceux qui enseignaient la doctrine de Balaam entraînaient le peuple à la débauche et à l'idolâtrie, qui sont liés. Et de même qu'il y avait à Pergame des faux docteurs attachés à la doctrine de Balaam, eh bien il y avait des faux docteurs attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ce que dit le texte. Et on a déjà parlé des Nicolaïtes pour l'église d'Éphèse, et ils sont cités en Apocalypse 2, verset 6, où là, on parlait pas de la doctrine des Nicolaïtes, on parlait des œuvres des Nicolaïtes. Or là, on est passé un cran plus loin. Il n'est plus question des œuvres des Nicolaïtes, il est question de la doctrine des Nicolaïtes. Un cran plus loin, cette doctrine, elle est enseignée. C'est pas seulement les œuvres, elle est enseignée à l'Église, elle était enseignée à l'Église. Et ces faux docteurs, eh bien, ils enseignaient aux chrétiens, nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés uniquement quand nous avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et donc, on est délivré de l'esclavage, du péché. Mais ces faux docteurs, ils enseignaient aux chrétiens qu'à cause du principe de liberté, eh bien, peu importe, ils pouvaient participer au culte des idoles en mangeant des viandes offertes aux idoles. Ils pouvaient pratiquer la débauche. Il y avait le mépris du corps, mais le mépris du corps dans le sens qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, n'importe quoi. Il n'y avait aucun problème là-dessus, pensait-il. Il disait donc qu'ils pouvaient participer au culte des idoles, pratiquer la débauche comme les païens, alors que l'apôtre Paul dit expressément que tout chrétien devrait s'en abstenir, en Actes 15, 20 et verset 29. S'abstenir de la débauche et de l'idolâtrie. Alors, nous sommes libres, effectivement. Nous avons été chrétiens, délivrés de l'esclavage du péché. Mais c'est pas, nous avons été graciés, nous avons été pardonnés. Mais la grâce n'est pas une autorisation de péché. La grâce n'excuse pas le péché. La grâce n'est pas une autorisation. Même si nous sommes pardonnés par grâce, nous n'avons aucun mérite. Mais pour autant, la grâce n'est pas une autorisation de péché. Et l'apôtre Paul, il avait bien souligné ce problème. Dans son épître aux Romains, chapitre 6, verset 1, il pose la question, très clairement, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La grâce n'est pas une excuse pour pécher, n'est pas une autorisation de pécher. Alors, oui, nous avons été libérés, mais pas pour nous vautrer, je veux dire pour nous replonger dans le péché. Au contraire, pour en sortir et pour être plus proche du Seigneur. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'exercer la discipline dans de tels cas? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Eh bien déjà, c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Le Seigneur Jésus, il était sans péché. Si nous aspirons à être en communion avec lui, et les uns avec les autres, nous ne sommes pas tout seuls, eh bien, il nous faut fuir le péché. Pour être en communion avec Jésus et les uns avec les autres dans l'Église, la communion, notre communion en dépend. Ça commence par quoi? Eh bien, ça commence par combattre le péché sans complaisance dans notre propre vie, personnellement. Et Jésus, il était radical face au péché, lui qui n'a jamais péché. Et qu'est-ce qu'il préconisait? C'était radical, de couper le membre qui était infecté par le péché, qui causait la chute du corps physique. Voici ce qu'il dit en Matthieu 18, verset 9. Jésus donc, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. C'était radical. Et c'est toujours radical. Déjà, combattre le péché dans sa propre vie. Mais que faire quand dans l'Église, on a connaissance de faits chez quelqu'un dans l'Église et ces faits mettent à mal l'Église? On en a été témoin, soit on a entendu quelque chose, soit on l'a vu, mais ce sont, je dis bien, des faits. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je parle de faits, pas de rumeurs. Est-ce qu'on fait comme si on n'avait rien su ou alors on se dit c'est uniquement du ressort des responsables et on ne se sent pas concerné? On ne peut pas rester indifférent et on va voir pourquoi. On ne peut pas faire comme si on ne savait rien ou se dire c'est uniquement du ressort des responsables. Pourquoi? Parce que quand on est membre d'une église, c'est pas seulement un privilège, une joie, mais c'est aussi une responsabilité. Où chacun a non seulement des droits acquis par le Seigneur Jésus, mais aussi des devoirs. Nous avons des droits, oui, que le Seigneur nous a acquis, hein. On n'a aucun mérite, mais nous avons des droits que le Seigneur nous a acquis. Mais nous avons aussi des devoirs, des responsabilités, les uns vis-à-vis des autres. Oui, nous sommes tous liés les uns aux autres. Je vais même dire, nous sommes dans le même bateau, dans l'Église. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Alors, la santé de mon frère ou de ma sœur me concerne. Je ne peux pas dire, je vis ma vie comme je l'entends. Lui, c'est son problème, elle, c'est son problème. Peu importe ce que pensent les autres dans l'Église. Non. Qu'on le veuille ou pas, nos choix, on fait tous des choix, bons ou mauvais d'ailleurs, mais qu'on le veuille ou pas, nos choix auront une influence sur toute l'Église, en bien ou en mal. Et voyons pourquoi on est tous liés les uns aux autres. Eh bien, pour trois raisons. Et la Bible utilise trois images pour dire ce qu'est l'Église. Trois images qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous sommes tous liés les uns aux autres. La première image que la Bible utilise pour l'Église, c'est celle de la famille. Nous ne sommes pas un club, nous sommes une famille. Dans une famille, on se parle, hein. Des fois, à la maison, on s'explique, on se parle, n'est-ce pas? Et la santé des uns et des autres nous importe. Aussi bien les enfants, les parents. Et l'Église, nous formons une famille, mais pas n'importe laquelle. Nous formons la famille de Dieu. Parce que Dieu est devenu notre Père lorsque nous avons accepté son Fils, Jésus-Christ, mort à la croix pour nous et ressuscité. Quand nous acceptons Jésus, quelqu'un qui accepte Jésus, il rentre dans la famille de Dieu. Dieu fait de lui son enfant en vertu de ce qu'a fait Jésus. Alors nous formons une famille, et dans une famille, eh bien, on est solidaires les uns des autres. La deuxième image que la Bible utilise pour parler de l'Église, c'est celle du corps. Dans un corps, voilà, on a des membres qui sont différents et tous nos membres sont ensemble et sont interdépendants. Une référence biblique, Éphésiens 1, 22, 23. Si vous voulez noter la référence, l'Église est appelée le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, chacun pour notre part, nous sommes ses membres. Donc nous sommes tous interdépendants. Et enfin, la troisième image, celle sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, que la Bible utilise pour parler de l'Église, il s'agit de l'épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Je vais lire en 2 Corinthiens 11, 2 ce que disait Paul. Voici ce que disait Paul dans la parole de Dieu. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà l'intention de Dieu. Nous présenter à Christ, nous l'Église, comme une vierge pure. Alors, attardons-nous sur l'image du mariage. Deux époux, quand ils se marient, n'est-ce pas, ils sont unis. Il y a un engagement. Ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Et quand on dit, alors, je parle bien de mariage, hein, pas de vivre, comme on dirait aujourd'hui, à la colle, ou mariage, engagement. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Qui dit mariage dit exclusivité. L'époux est pour son épouse et l'épouse est pour son époux. Exclusivité. Et dans notre relation à Christ, eh bien, nous sommes déjà attachés à Christ par le lien du sang qu'il a versé pour nous à la croix. Nous sommes attachés à lui par le lien du sang, de son sang. Alors, tout autre attachement qui ne découlerait pas de notre attachement à Christ est exclu. Alors là, on comprend mieux le problème de l'église de Pergame. Versets 14 et 15, je relis les versets 14 et 15, le reproche qui lui est fait. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, verset 15, ça c'est verset 14 et verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Voilà le problème. L'église comptait en son sein des gens attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine, attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et quand on est attaché à l'un, on n'est pas attaché à l'autre. Ils ne pouvaient pas être attachés aux deux. De ce fait, ces gens n'étaient pas attachés à Christ. Les deux sont incompatibles. Il faut choisir. Et le texte, remarquez, le texte ne dit pas « il y a des gens attachés ». Mais que dit le texte ? « Tu as des gens attachés à ces doctrines ». Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens de passage, mais c'était des gens qui s'étaient installés dans l'Église, qui propageaient leurs fausses doctrines et qui ne s'étaient pas repentis. Pire que ça, qui enseignaient ces fausses doctrines à l'Église. Alors, eh bien oui, les discipliner, c'était nécessaire pour la bonne santé de tout le corps, pour la bonne santé de l'épouse, pour la bonne santé de la famille de Dieu. Parce que ne rien faire, le risque était de quoi ? Bien de les voir tomber, l'un après l'autre. Le risque était d'en voir tomber beaucoup, si rien n'était fait. Le péché, la Bible compare le péché à du levain. C'est comme une gangrène qui contamine les autres. Mais le bon berger, le Seigneur, veille sur son troupeau. Et parce qu'il veille sur son troupeau, il lance un appel. Il lance un appel à quoi faire ? À se repentir. Alors déjà, l'appel à se repentir, il s'adresse à ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Enfin, déjà à ceux qui enseignent ces doctrines, aux faux docteurs. À ceux qui pratiquent et qui enseignent ces fausses doctrines. Mais pas seulement. L'appel à se repentir s'adresse à toute l'Église. À toute l'Église qui a laissé faire parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Le repentir, c'est non seulement notre part individuelle, mais c'est aussi le devoir de l'Église, ensemble et des assemblées. Un commentateur, Matthew Henry, a écrit ceci. Ceux qui ont péché ensemble doivent se repentir ensemble. C'est pas qu'une question individuelle. Et bien sûr, personne n'aime être repris, hein. Mais personne n'aime reprendre non plus, c'est pas facile de reprendre. Enfin, il y en a pas beaucoup en tout cas. Personne n'aime être repris et c'est pas facile de reprendre ou d'être repris. Et souvent, on s'abrite derrière les « mais qui suis-je pour juger un tel ?» Pourtant, c'est d'abord à l'Église de juger ce qui se passe en son sein, ce qui se passe chez elle. Et regardez ce que disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 5, 12 à 13. Qu'ai-je en effet, 1 Corinthiens 5, 12 à 13, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est radical. Alors là, on va... Oui, c'est pas facile, hein ? Mais on veut faire, n'est-ce pas ? Et on veut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors se pose la question, comment exercer la discipline dans l'Église ? Comment exercer la discipline dans l'Église ? Alors il y a des extrêmes à éviter, hein. Il ne s'agit pas de s'ingérer dans les affaires d'autrui, hein. Même si on forme une famille, il ne s'agit pas de surveiller les uns les autres et à la moindre défaillance, ou par une curiosité malsaine. Et tout à l'heure, Brigitte a cité un passage que j'ai relevé, et qui parle de d'ouï-dire. Il ne s'agit pas de se baser sur un ouï-dire. Il s'agit de se baser sur des faits. Quand on entame une procédure de reprendre quelqu'un, il faut des faits. Il ne faut pas, j'ai l'impression, on m'a dit que, tu sais, un tel, il paraît que... Il faut des faits, au risque de faire des dégâts. Et je relis le verset qu'a lu Brigitte ce matin, Brigitte Fourmont, en Ésaïe 11:3, il est question du serviteur de l'Éternel, et ce serviteur, c'est Jésus. Et voici comment il agit. Ésaïe 11:3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï dire. On peut être rassuré, parce qu'avec lui, pas d'erreur de jugement. Il est juste, et sa justice, on peut vraiment s'appuyer sur sa justice. Donc déjà, sans s'ingérer dans les affaires d'autrui, eh bien, basons-nous sur des faits. Et pour reconnaître les fausses doctrines, pour reconnaître ce qui n'est pas bon pour l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, connaître ce que dit la parole. Une lecture attentive et régulière de la parole de Dieu va nous aider à identifier les faux docteurs, les fausses doctrines. Et nous avons tous besoin de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va nous aider? Comment exercer la discipline dans l'Église? Eh bien, la discipline, c'est plus facile, n'est-ce pas, de l'exercer dans l'amour et dans la vérité. Les deux sont inséparables. Et pour nous, eh bien, nous nous rappelons que nous sommes l'épouse de Christ. Connaître Christ et son amour qu'il a pour nous va nous aider, nous en tant qu'épouse et le Seigneur en tant qu'époux, va nous aider à discipliner de la bonne manière. Alors quand nous reprenons quelqu'un, déjà, rappelons-nous que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas au-dessus de lui. Nous sommes aussi des pécheurs. Et nous avons été pardonnés en Christ. De le reprendre, donc, dans cette attitude-là, ça devrait nous aider. Aussi, ce qui va nous aider à reprendre la personne, eh bien, non seulement c'est l'amour de Christ pour nous et pour cette personne, mais c'est de se dire que c'est pour son bien et celui de l'Église. Si je reprends quelqu'un, c'est par amour pour lui et pour aussi la protection de l'Église. Et où est-ce que ça vaut aussi? Eh bien, ça vaut aussi, bien sûr, dans la famille. Ça vaut pour l'éducation des enfants. N'importe quel parent qui aime ses enfants, il sait le reprendre quand il faut. C'est pour son bien. Et aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui circulent que reprendre son enfant, et il manque pas, hein, ces courants de pensée, reprendre son enfant, c'est pas l'aimer. Il faut jamais le reprendre, il faut le laisser s'épanouir. Parce que ça nuirait à leur développement de les reprendre. C'est ce qu'on entend très souvent, ces courants de pensée à la radio, avec des doctrines qui circulent dans les écoles. Mais ça, c'est pas aimer ses enfants, de ne jamais les reprendre. D'ailleurs, la patience des parents qui adoptent ces doctrines, elle est mise à rude épreuve. Parce qu'au bout d'un moment, il devrait en tout cas reprendre son rôle. Reprendre quelqu'un, oui, dans l'amour, quand il s'agit d'un membre de l'Église, en se rappelant que nous-mêmes, on est des pécheurs. Mais concernant les faux docteurs, ceux qui ne se sont pas repentis, déjà pour eux, mais qui enseignent l'Église à faire les mêmes choses, que se passe-t-il? Radical. Une Église peut être amenée à les chasser, s'ils ne se repentent pas. À les chasser de l'Église, pour le bien de l'Église, pour le bien du corps. S'ils ne veulent pas se repentir, s'ils ne veulent pas arrêter. Et là, il s'agit bien de couper le membre infecté, qui est une occasion de chute, pour éviter la gangrène dans tout le corps. Il y a donc des situations où, eh bien oui, d'écarter la personne qui ne veut pas se repentir et qui continue de propager des fausses doctrines. Quand on se dit chrétien, on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Un peu ici, un peu là. Non, quand on est chrétien, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et nous l'a rappelé ce matin, Morel, c'est vrai de s'éloigner, déjà, la première chose, c'est de nous éloigner du péché. Après, il faut faire des choix dans le sens de faire pas seulement ne pas faire les mauvaises choses, mais faire les bonnes choses. Mais en tout cas, par rapport au péché, il faut faire des choix. On ne peut pas avoir un pied ici et un peu là. Parce que s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas eu choix, la repentance est un choix. S'il n'y a pas eu de choix, qu'est-ce qui va se passer? Ce que dit le Seigneur dans cette lettre, le Seigneur viendra lui-même les combattre. Et comment est-ce qu'il va venir les combattre? Avec l'épée. avec l'épée de sa bouche, verset 16, « Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est pas n'importe quelle épée, il s'agit de l'épée de sa parole, la parole de Dieu. Dans chaque lettre, avant chaque lettre, le Seigneur commence par se présenter lui-même, par un attribut qui correspond à la situation de l'Église, à ses besoins. Et là, comment est-ce qu'il se présente dans cette lettre à l'Église de Pergame ? Une description de lui-même propre à exhorter l'Église. Il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, verset 12. Et aiguë, ça veut dire une perçante, hein, qui est une épée qui est aiguë dans le sens de pointu et qui est rapide, dans le sens de trancher. Son épée, bien sûr, c'est la parole de Dieu, sa parole. Et la même image d'une épée aiguë à deux tranchants, une épée à deux tranchants, est reprise en Hébreu chapitre 4, verset 12, que je lis, en parlant de la parole de Dieu. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Fin de citation. Cette parole, elle est tranchante. Et elle tranchera. Elle tranchera inévitablement, comme une épée tranche, là où il n'y a pas eu de choix, pour éviter tout compromis avec le mal, pour éviter toute gangrène. C'est cette parole qui tranchera. Où ça ? Dans le cœur, dans l'âme. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant des choix difficiles ? Vous aviez un choix difficile à faire, un choix que vous ne pouviez pas éviter, un choix inévitable. Et ce choix vous est venu après que vous ayez lu un verset dans la Bible. Ce verset ne vous a pas laissé indifférent, il ne vous a pas laissé tranquille jusqu'à ce que vous passiez ce choix. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez du mal à choisir, mais c'est cette parole qui a tranché. Et vous avez fini par faire le choix. Vous ne pouviez pas lui résister, ni faire autrement que de lui obéir. Et ça, c'est une grâce, les amis. C'est une grâce. Le pouvoir de la parole de Dieu. Et un frère en Christ m'a témoigné que lorsqu'il est devenu chrétien, il est tombé sur un verset, il était tout jeune chrétien, et il est tombé sur un verset qui l'a convaincu d'abandonner une relation avec une femme qu'il savait très bien illicite. Illégitime. Ce verset ne l'a pas laissé. Il le savait très bien qu'il fallait qu'il abandonne cette relation. Il savait qu'il avait un choix à faire et il a fini par le faire. Il a fait le choix grâce à ce verset. Même s'il aimait cette femme, m'a-t-il dit. Alors, quelle grâce. Si vous avez un choix difficile à faire, Dieu, dans sa grâce, vous y aidera. Comment ? Par sa parole. C'est elle qui tranchera. Toutes ces exhortations à se repentir, à la repentance, ne sont rien d'autre que des manifestations de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour faire sa volonté, pour nous repentir. À commencer par quoi ? À commencer par sa parole, qui est agissante. Et bien sûr, sa propre personne, la description que Jésus fait de lui-même au début de chaque lettre, va nous rappeler et va nous aider dans ce qu'il attend de nous. Alors c'est une grâce que de se repentir. La repentance, quand on a la force, le désir de se repentir, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et tout en étant une grâce, on n'a aucun mérite, hein ? Vous êtes d'accord ? Même si on n'a aucun mérite, Dieu promet une récompense à cause de ce que lui a fait. Il promet une récompense individuelle au vainqueur. Attardons-nous sur cette récompense. Quelle est cette récompense ? Deux choses. De la manne cachée, et un caillou blanc. Je relis le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors la manne, ça vous dit quelque chose, je suppose. Ça a été la nourriture des Israélites pendant 40 ans dans le désert. C'était une nourriture qu'ils ne connaissaient pas, c'était une nourriture qui tombait du ciel, que Dieu leur donnait. Ils ne connaissaient pas cette nourriture. Si vous voulez une référence, Deutéronome 8, verset 3. Là, il s'agit de la manne cachée. C'est aussi une nourriture qui tombe du ciel, hein. Quelle est-elle, cette manne ? Je vais lire Jean L'évangile de Jean, chapitre 6, versets 48 à 51. Jésus qui parle. Et il évoque la manne. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Cène qui nous rappelle le corps de Jésus, brisé pour nous, son sang qui a été versé pour nous. Là, en tout cas, on a mangé, n'est-ce pas, cette Sainte Cène. Elle a rien de magique, cette Sainte Cène. Elle nous rappelle simplement le corps de Jésus. Et nous nous nourrissons de ce qu'a fait Jésus à la croix. Dans cette lettre, il est question des viandes sacrifiées aux idoles. Et il est question de la manne cachée par opposition aux viandes sacrifiées aux idoles. Cette manne cachée, elle est donnée par Dieu. Cette manne, on ne la voit pas. Cette manne cachée, il s'agit de Jésus lui-même, qui est notre nourriture. Il s'agit de Jésus et de la connaissance intime et personnelle de l'amour de Dieu et de sa parole. Si vous vous rappelez l'histoire des Israélites dans le désert, au bout d'un moment, ils se sont lassés de la manne. Dieu leur donnait à manger gratuitement cette manne. C'était toujours la même nourriture. Une manne qui descendait du ciel. Et au bout d'un moment, voici ce qu'ils ont dit, Nombre 21, verset 5, « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Mais là, cette manne cachée, eh bien, elle est pour le croyant qui ne se lasse pas de lire la parole de Dieu, qui a une connaissance intime et personnelle de l'amour de Dieu, qui s'en nourrit. Elle est réservée aux croyants qui n'ont pas méprisé la parole de Dieu, mais qui l'ont gardée, qui s'en sont nourris, comme la manne descendue du ciel. Ça, c'est la première récompense, Jésus lui-même. La deuxième, bien, c'est encore le Seigneur. L'autre récompense, c'est ce caillou blanc avec un nom écrit dessus. Alors, c'était bien de voir... Pourquoi ce caillou blanc? Eh bien, à l'époque, chez les Grecs, il y avait des cailloux noirs et des cailloux blancs. Les cailloux noirs, ça signifiait un vote de condamnation. Celui qui recevait un caillou noir, il était condamné, certainement suite à un jugement. Et un caillou blanc signifiait un vote d'acquittement. C'était symbole que le caillou blanc, la personne était acquittée. C'était aussi ce caillou blanc, le symbole de bienvenue à un invité. Quand il y avait une fête, eh bien les invités recevaient un caillou blanc pour leur dire qu'ils étaient les bienvenus à cette fête. Et sur ce caillou blanc est inscrit un nom nouveau. Et ce nom nouveau, eh bien, il s'agit de celui de Christ. Alors, ce nom nouveau, oui, il s'agit de Christ. Personne ne le connaît à part lui-même qui porte ce nom et celui qui le reçoit, ce caillou blanc. Et regardez ce que dit Jésus un peu plus loin, en Apocalypse 3, verset 12. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est Jésus qui parle. On connaît le nom de Jésus. Là, il s'agit d'un nom nouveau qui sera révélé au ciel. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Alors, dans un mariage, qu'est-ce qui se passe? L'épouse reçoit le nom de l'époux, vous êtes d'accord? Et bien sûr, ici, on pense aux noces de l'agneau qui auront lieu au ciel lorsque le Seigneur nous prendra avec lui. Là, à l'Église, on ne sera pas seulement l'invité du Seigneur, mais on sera aussi ce qu'on est déjà, son épouse. Et on va recevoir son nom. Un nom nouveau que personne ne connaît, sinon lui-même et celui qui le reçoit individuellement. Et ce nom nouveau, eh bien, ça implique que nous participons déjà à la nature divine de Jésus. Nous sommes revêtus de son caractère et nous le serons complètement une fois réunis au ciel avec lui. Ce caillou blanc, eh bien, il représente notre autorisation à rentrer au ciel. C'est le Seigneur lui-même qui nous le dit parce qu'on a mis notre foi en lui, sans aucun mérite. Nous sommes invités au repas des noces de l'agneau, étant nous-mêmes son épouse, l'épouse de Christ, Nous sommes invités. C'est, on pourrait dire, on parle beaucoup de passe en ce moment. Eh bien, c'est notre passe pour rentrer au ciel. Grâce à ce qu'il a fait à la croix pour nous. Si tu n'as pas encore reçu ce passe, eh bien, tu peux le faire. En croyant que Jésus s'est sacrifié pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Tu peux être sûr que tu auras ce caillou blanc si tu as cru dans son sacrifice. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour cette belle fête que tu prépares au ciel, Seigneur, qu'on ne peut pas imaginer tant elle sera belle, Seigneur, avec toi. Ça sera la fête, Seigneur, la joie avec toi. Toi, Seigneur, qui nous invite à nous préparer, Seigneur, oui, pour ton retour, pour le moment où tu nous prendras. Et Seigneur, je prie que tous ceux qui entendent cet appel viennent à toi, Seigneur, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et Seigneur, je te prie de parler au cœur de chacun. Je te remercie parce que tu nous pardonnes nos fautes, Seigneur. Seigneur, la faculté de nous repentir, elle vient de toi, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui travailles dans nos cœurs à chacun. Merci pour nous donner, Seigneur, la marche à suivre, Seigneur, pour que ton Église soit en bonne santé. Et Seigneur, parfois, c'est pas facile, Seigneur, d'avoir de la discipline des uns envers les autres. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te remercions car tu nous guides, Seigneur, et je te remercie parce que ta parole, Seigneur, elle ne revient pas à toi sans effet. Et Seigneur, nous pouvons être sûrs que, eh bien oui, ton Église, nous présenterons devant toi comme une mariée en blanc, Seigneur, purifiée par toi. Seigneur, nous te remettons cette église de Figeac, qu'elle rayonne dans Figeac et aux environs, Seigneur. Et merci que, Seigneur, nous ayons les yeux fixés sur toi, sur la portée de ton amour pour nous, Seigneur. C'est vrai que parfois, Seigneur, on est centré sur nos problèmes, et bien sûr, c'est pas facile ici-bas. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu nous réserves au ciel et surtout déjà ici-bas, sur terre. Tu es là, Seigneur, tu es présent. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur, en communion étroite avec toi. Ce qui nuit à notre communion avec toi et les uns avec les autres dans l'Église, Seigneur, je le dépose au pied de ta croix pour que, Seigneur, aussi bien individuellement qu'en Église, Seigneur, nous prenions les bonnes dispositions, les bonnes décisions, Seigneur, pour que rien ne fasse obstacle à notre communion avec toi et les uns avec les autres. En Jésus-Christ. Amen. Amen.